Alors continuons notre circuit liturgique et par la vallée du Cédron, depuis le Mont des Oliviers, nous descendons vers ce paysage de cimetière. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas tellement les cimetières, c'est la petite source là, qui est le secret de Jérusalem, la source de Gihon, le secret de son caractère imprenable, jusqu'à ce que David ait réussi par ruse à s'en emparer. Oui, alors ce qui nous intéresse, c'est peut-être les tombeaux, mais sont les morts, enterrés les morts, dit Jésus. Mais la petite source là de vie, la petite source de Giron, et puis les autres Siloé qui coulent doucement vers la piscine de Siloé, Siloé qui veut dire l'envoyé. Et nous rencontrons Isaïe sur cette route. Et vous ne voudrez pas de m'étendre un petit peu sur ce prophète Isaïe. C'est aujourd'hui le 30e anniversaire de la fondation de la maison que nous avons mis sous son patronage. Et moi je l'aime de plus en plus, le prophète Isaïe. Alors pour Isaïe, la maladie dont nous souffrons tous, c'est ce divertissement dont parle Pascal, là, et qu'il appelle lui l'aveuglement. Et vous savez que ça commence au premier chapitre. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. On a l'habitude d'interpréter ça de façon antisémite dans la mentalité populaire chrétienne. C'est dommage. Nous avons tous à nous mettre en question. Nous sommes tous aveugles. Nous avons tous à demander un miracle comme celui qui, dans l'évangile, là, présenté à la fin de la fête de Soukhot, ce récit d'aveuglement qu'on va lire. C'est nous-mêmes. L'histoire sainte a une valeur exemplaire et c'est nous-mêmes qui sommes appelés à nous interroger, non pas projeter, transférer la culpabilité sur d'autres. On a assez à faire avec nous-mêmes. Alors Isaïe vit à une époque, commence son ministère alors qu'il y a une coalition entre le roi d'Aram, de Syrie là-bas, et puis le royaume du Nord. Il se prépare à attaquer Jérusalem. Et à Jérusalem, tout le monde tremble. Dans le cœur du roi et le cœur du peuple se mirent à chanceler comme chancelle des arbres de la forêt. Alors Dieu dit au prophète Isaïe, c'est ici qu'on a le données topographiques le plus précises.
Écoute, tant pis,
ça c'est Jérusalem.
Quoi. Oui, non, mais là, quand ça coupe votre voix aussi, c'est.
Tout le monde tremble à Jérusalem devant cette coalition qu'on appelle la coalition syro-éphraïmite. Hein. Et Dieu dit à Isaïe, sort devant Akaz, le roi de son nom David là, à l'époque, toi et Shear Yashuv, le Arest reviendra, ton fils, vers l'extrémité du canal de la piscine supérieure, vers le chemin du champ du flou. Et tu lui diras, prends garde et calme-toi, ne crains pas et que ton cœur ne défaille pas. Isaïe nous enseigne la foi, et la foi c'est pas quelque chose qui nous pousse à nous agiter plus que les autres, c'est au contraire, ça provoque plutôt une attitude de calme, d'enracinement en Dieu, de confiance en Dieu. Ainsi parle le Seigneur, cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, et sa phrase extraordinaire, si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. Amen, vous connaissez ce... Il faudrait traduire, si vous ne misez pas sur ce qui est vraiment pas solide, si vous ne misez pas sur ce qui est vraiment solide, vous ne tirerez pas le coup. Alors c'est dans ce contexte que ce Dieu qui fait éclater nos idées par en haut et par en bas fait dire au prophète, demande un signe. Il dit à Akaz, demande un signe à Dieu, au fond, dans le Sheol ou dans les hauteurs au-dessus. Il y a pas possible d'Emmanuel. On a beaucoup discuté sur la signification de Alma, par la jeune femme. En fait, c'est intéressant de remarquer que la tradition juive antérieure au christianisme, lorsque s'est faite la traduction des Septante, à la cour des rois des Ptolémées, des on a traduit spontanément par Parthénos. Il y a certainement tout un courant de la tradition juive qui a interprété cette naissance dans un sens miraculeux. C'est comme ça que nous interprétons Saint Matthieu et puis toute la tradition chrétienne. Alors à cette époque-là, bon, on est tenté de faire des alliances avec les superpuissances dont nous avons tellement parlé, qui sont au sud et au nord, au bord du Nil, ou bien en Mésopotamie, sur le Tigre et l'Euphrate. Et tandis que ces superpuissances sont symbolisées par ces grands fleuves du Nil et de l'Euphrate, alors le peuple est invité à mettre sa confiance dans les eaux de Siloé qui coulent doucement. Et cette petite source là-bas au fond, elle symbolise pas la présence de Dieu qui fait toute la force de Jérusalem. Jérusalem, des collines l'entourent et puis la petite source au milieu. Sentez,
on va...
très évocateur, puisque ce peuple a méprisé les autres silhouettes qui coulent doucement et a tremblé et qui a fait alliance avec Assur. Il va venir Assur et le submerger complètement. Alors, alors que tout le monde tremble, tout le monde a peur et tout le monde se compromet dans des alliances avec l'étranger, il forme une école de croyants. J'aime bien ce texte-là, j'aime bien le lire aujourd'hui. Enfin, mon témoignage scelle une instruction au cœur de mes disciples. J'espère en Dieu qui cache sa face à la maison de Jacob et je mets mon attente en lui. Voici que moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous devenons signes et présages en Israël de la part du Seigneur Sabaoth qui habite sur la montagne de Sion. Et alors, il y a une délivrance là, qui s'inscrit dans toutes les délivrances là et qui se traduit par un cantique qui est merveilleux, qu'on chante souvent à l'office du matin. Là. Voici le Dieu de mon salut, j'aurai confiance et je ne tremblerai. Il n'est El Mishuati Eftar Velo Efrat. La force et la chance, c'est Dieu, il a été mon salut. Et ici, c'est le langage de l'exode. C'est curieux, quand on expérimente par les interventions toute-puissantes de ce Dieu qui mène par-delà la mort, on reprend le langage de l'exode, vous voyez, et ce langage-là se prolonge dans toute la Bible et dans l'Apocalypse. Nous dirons, une fois que nous avons traversé la mer de cristal dans l'Apocalypse, nous chanterons le cantique de Moïse et de l'agneau. Alors vous avez un deuxième récit qui s'inscrit dans le même paysage. Vous trouvez ça au chapitre 36 d'Isaïe. Alors là, ce sont les gros empires, les grands empires, c'est la Syrie, la première des êtres apocalyptiques qui va déferler sur Israël, en Babylone, les Grecs, les Romains, etc. C'est la Syrie. Alors la Syrie a conquis tous les pays avoisinants et qui prépare de la Kish, qui sont passés une attaque contre Jérusalem qui est très près. Alors de la Kish, le roi de Syrie envoie le grand échanson, un grand officier de son armée, qui se poste près du canal de la piscine supérieure, près sur le chemin du champ du foulon, exactement le même endroit. Et alors là, Isaïe, là où il a enseigné la foi une première fois au temps d'Akaz et de la coalition sur roi Ephraïmite, alors Isaïe de nouveau, alors que tout le monde tremble plus que jamais à Jérusalem, dit « N'aie pas peur ». Des paroles que tu as entendues, des blasphèmes que les valets du roi d'Assyrie ont lancés contre moi, je vais mettre en lui un esprit et sur une simple nouvelle qu'il entendra, il retournera dans son pays et dans son pays je le ferai tomber sous l'épée. Se produit alors une délivrance qui s'aligne dans les grandes délivrances que le peuple a expérimenté au cours de son histoire, d'un Dieu qui a les issues de la mort. Rappelez, notre Dieu est un Dieu de salut. Le matin au réveil, ce n'était plus que des cadavres, c'est comme sur le bord de la mer Rouge, on prend le même langage. Et cette délivrance là, s'inscrit dans le langage des délivrances qui va trouver sa perfection au temps de Jésus où nous serons délivrés des aliénations fondamentales dont nous sommes victimes, le péché et la mort. Alors je vous ai déjà cité, je crois, à la Kish, quelques-uns des psaumes qui s'enracinent. Le premier, c'est, on pourrait l'appeler Immanuel. Dieu est avec nous. Avec nous, le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Tu es pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous pas si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers, lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux et que tremblent les montagnes leur soulèvement. Un fleuve, et la petite source, elle n'a pas augmenté le débit. Elle est devenue un fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Et on est en marche vers ce grand fleuve qui sortira au temps de l'Apocalypse de la Jérusalem et d'au-dessus des collines et qui, traversant le désert, ira ressusciter la mer morte. Avec nous, le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Un fleuve, ses bras réjouissent la cité de Dieu. Il sanctifie les demeures du Très-Haut. Dieu est en elle. Elle ne peut chanceler. Dieu la secourt au tournant du matin. Paul, if not, ok, c'est ici l'angage de délivrance. Au tournant du matin, les peuples mugissaient, les royaumes chancelaient, il a élevé la voix, la terre se dissout. Contemplez les hauts faits de Dieu qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc il a rompu, la lance il a brisé, il a brûlé le bouclier au feu. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec qui le Seigneur Sabaoth. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Quand le Dieu parlait latin, on disait « vacate et videte cognam me gossum deus ». Prenez un peu de vacances et puis faites un peu comme si j'existais. Il dit, c'est le cardinal Suard, une fois au cours d'une réunion de prêtres où la discussion s'enlisait un peu, il dit, écoutez monsieur, arrêtons 5 minutes et faisons un peu comme si Dieu existait vraiment. Et alors, dans tous ces psaumes, ben, on voit ça se développer. Ouais, il y a une école isaïenne. Maintenant, on parle moins du premier, deuxième, troisième, voire quatrième Isaïe. Il y a vraiment une école isaïenne qui se développe sur plusieurs siècles. Alors, ces mêmes thèmes, Dieu fabrique les intentions du monde et les interventions de Dieu se manifestent à Jérusalem. Et le monde entier est appelé à venir contempler les interventions que Dieu fait à Jérusalem. Alors, de Jérusalem par une prédication qui se répercute aux extrémités du monde et en écho à laquelle les extrémités du monde tiennent à Jérusalem. Alors, ça rythme encore une fois, comment ça se réalisera complètement, je n'en sais rien. Simplement, je pense qu'il faut qu'ils habitent nos cœurs et on verra comment ça se réalise au fur et à mesure que l'histoire se déroulera. Alors tout ça est supposé connu quand on lit dans Saint Jean les fameux chapitres qui tournent autour de la piscine de Siloé, hein, Siloé qui veut dire l'envoyé, l'Ishloar, ça veut dire l'envoyé. Et vous savez que à partir dans Saint Jean, à partir du chapitre 7, tout s'inscrit dans la célèbre fête de Soukhot. On a mis la BST là sous la fête de Soukhot. Il y a beaucoup de chrétiens qui voudraient organiser une grande montée à Jérusalem pour la fête de Soukhot. Et ils pensent au dernier chapitre 2. Alors dans cette 18e cassette, on continue le circuit géologico-liturgique là, qu'on fait sur les collines qui entourent Jérusalem, sur le thème de Jérusalem comme lieu saint au singulier. Et alors on a chanté les laudes là sur le mont des Oliviers. Et maintenant, en descendant dans le Cédron, là, on a fait connaissance avec le prophète Isaïe qui nous a donné des enseignements sur la foi, sur le chemin du champ du foulon, là, au temps de la crise syro-éphraïmite, et puis au temps où Sennacherib se prépare à investir Jérusalem. Et on a fait connaissance avec beaucoup de textes supposés connus pour comprendre comme il mérite d'être compris, là, les textes qui nous racontent dans Saint Jean ce qui se passe autour de la fête de Soukhot avant la guérison de l'aveugle bébé dans la piscine de Siloé, à laquelle nous nous dirigeons. On va bien en ce que sorte on se prépare à patauger dans le canal de Zéchias entre la source de Giron et la piscine de Siloé. Inscrit dans la célèbre fête de Soukhot. On a mis la BST là sous la fête de Soukhot. Il y a beaucoup de chrétiens qui voudraient organiser une grande montée à Jérusalem pour la fête de Soukhot. Et ils pensent au dernier chapitre de Zacharie qu'on aura l'occasion de lire où toutes les nations du monde viennent pour détruire Jérusalem et puis il se passe ce qui se passe avec le mouvement tectonique à l'appui. Et puis ensuite ils montent à Jérusalem et c'est comme ça que le royaume de Dieu arrive. Mais je ne sais pas s'ils se rendent compte de toute la gravité de tout cela. Enfin, les plus violentes discussions qu'on trouve dans l'évangile de Saint Jean sont dans le cadre de la fête de Pentecôte. Et je vous conseille un jour de prendre un crayon de couleur, comme on en fait maintenant, stabilo ou autre, et de souligner dans ce récit le mot envoyé. Enfin, Jésus est-il, oui ou non, l'envoyé? Et alors, va te plonger dans la piscine de Siloé, ça veut dire reconnais. Sors de ton aveuglement et puis vois. Et ouais, il faudrait lire tout le texte ici parce que, avant de rentrer dans le canal d'Ézéchias, là, parce que patauger dans l'Ézéchias dans l'obscurité pendant une petite demi-heure, là, c'est comme se plonger dans les eaux de Siloé et puis en sortir et voir. Vous voyez, voir, on retombe dans le thème de Jérusalem, voir celui qui nous voit. Voir celui qui nous voit, voit le Père. La fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent donc, passe donc d'ici en Judée, que les disciples aussi voient les œuvres que tu fais. On n'agit pas en secret quand on veut être juif. Puisque tu fais ces choses-là, manifeste-toi au peuple. Ses frères, en effet, ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, tandis que le vôtre est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi il me hait, parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Vous montez à la fête, quand on parle de la fête, on parle de Soukhot. Et Hag, Hag Simchatim, la fête de notre joie, tu ne seras que joie. Mon temps n'est pas encore venu. Il resta en Galilée, mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta lui aussi, pas au grand jour, mais en secret. Alors des discussions extrêmement violentes, je vous dirais, s'engagent. Et autour du thème, Jésus est-il lui ou non l'envoyé? On a l'habitude, pas, vous le ferez, de dire la guérison de la veille de Dieu. Et il y a tout un suspense, il ne faut pas charcuter le texte, quoi, le couper, parce qu'il y a tout un suspense qui est très particulier. Et nous avons tous besoin. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire c'est eux, c'est pas nous. Mais, la Bible, nous sommes tous concernés, nous sommes tous interpellés, nous sommes tous mis au pied du mur, c'est un lit dangereux. Enfin, c'est nous qui sommes des gens qui sommes aveugles. On a tous besoin d'un miracle pour sortir de notre aveuglement, un miracle pour reconnaître celui qui a été envoyé pour le salut du monde. Les textes là sont très percutants, je risquerais de les mettre entre parenthèses, mais au fond on rend service à personne en mettant en marge nos convictions les plus profondes. Je ne crois pas que c'est comme ça que... Et même je crois que c'est dans la mesure où nos convictions sont fermes qu'on est le plus capable de dialogue. Hein. C'est quand on n'est pas dans son assiette qu'on devient agressif. Et je pense que actuellement, si vous interrogez ceux qui sont les plus à l'avant, les idéologues judéo-chrétiens, ils disent on est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur quoi ? Sur la personne de Jésus. Est-il lui ou non l'envoyé ? C'est ça qui nous sépare. Mais c'est déjà beaucoup de savoir ce qui nous sépare. Et si vous interrogez même Marcel Dubois, là, il vous dira que c'est justement ce qui nous sépare qui aussi est notre point commun. Je vous interrogerai sur le sujet. Il dit ça beaucoup mieux que moi et de façon beaucoup plus profonde et subtile. Et non, c'est vrai, je l'interrogerai là-dessus sur le sujet.